parole du jour avec Claire Tiercelin.
Bonjour chers auditeurs. Il est midi. Je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Si je vous ai lu ces quelques vers de Paul Claudel, extraits de l'œuvre poétique, c'est que le premier vers, « Il est midi, je vois l'église ouverte, il faut entrer », a été choisi par Mgr Perrier, notre ancien évêque, comme exergue de son livre « Comment visiter une église ». Dans cet ouvrage, réédité plusieurs fois, l'auteur veut permettre aux visiteurs d'un édifice religieux de bien comprendre le style, les objets, les symboles. Une église n'est pas un édifice comme un autre, et il est important d'en comprendre la signification et tous ses éléments. Je ne vais pas vous détailler tout le contenu du livre, mais je vais simplement reprendre deux chapitres. La dédicace d'une église et le chapitre sur richesse et pauvreté des églises. À Chartres, tous les ans, nous fêtons la dédicace de la cathédrale avec une solennité particulière. Cette année, c'était le dimanche 17 octobre. Qu'est-ce qu'une dédicace d'église ? C'est un acte et une cérémonie de consécration d'un édifice religieux, église, chapelle, servant aux différentes célébrations liturgiques. Le véritable acte de naissance de ce sanctuaire n'est pas la pose de la première pierre, mais ce rituel de consécration. Je prends maintenant le texte dans le livre de Mgr Perrier. Les chrétiens disent dans le credo qu'ils croient en l'Église. Malgré les défauts de ses membres, l'Église est une réalité sainte. Les églises où l'Église se rassemble pour accueillir son Sauveur sont elles-mêmes des réalités saintes. C'est pourquoi la liturgie prévoit un rite solennel pour leur consécration. En fait, le processus commence dès la pose de la première pierre et même en deçà, dès la bénédiction du terrain. Le jour même de la dédicace, c'est une grande fête et l'Église le commémore chaque année. Le calendrier liturgique fait célébrer chaque année la dédicace de l'Église cathédrale du diocèse et des grandes basiliques romaines. Pour la dédicace, le célébrant normal est l'évêque. La procession vient d'une autre église ou du moins de l'extérieur. Arrivé à la porte de l'église qu'il doit consacrer, l'évêque reçoit l'édifice de ceux qui l'ont voulu, projeté, construit, payé. Puis il frappe la porte de sa crosse, tandis que l'assemblée chante « Ouvrez-vous, porte éternelle, laissez entrer le roi de gloire ». Une fois entré dans l'église, l'évêque trace sur le sol le signe de la croix avec la pointe de sa crosse. La messe de la dédicace commence par une vaste aspersion de l'assemblée d'abord, puis des murs et enfin de l'autel. Diverses lectures sont proposées pour la liturgie de la parole. L'une d'elles est obligatoire, c'est l'inauguration du temple reconstruit après le retour de l'exil au VIe siècle avant Jésus-Christ. Les actes essentiels de la consécration s'accomplissent après les lectures et l'homélie. La litanie des saints précède le dépôt des reliques dans l'autel. Toute l'église est placée sous un patronage particulier. Tel aspect du mystère de Dieu et du salut, tel vocable marial ou le plus souvent tel saint patron. Une longue tradition veut que des reliques des saints soient conservées dans l'église et spécialement dans l'autel. En France, 4000 églises sont placées sous le patronage de Saint Martin, le moine évangélisateur des campagnes. Comme dans une ordination, la consécration de l'église est opérée par une prière et une onction du Saint-Crème. L'évêque marque du Saint-Crème l'autel, puis les murs de l'édifice. Des croix sont gravées sur la table de l'autel et 12 croix sont peintes sur les murs, là où on a répandu le Saint-Crème. Une bougie devant chaque croix est allumée tous les ans, au jour anniversaire de la consécration. L'église et l'autel ainsi consacrés méritent d'être encensés, ainsi que l'assemblée des baptisés. À la fin de la messe, l'évêque porte le Saint-Sacrement à la chapelle prévue pour le conserver. La chapelle se trouve ainsi inaugurée par la prière des fidèles en dehors de la messe, mais en lien par l'Eucharistie avec la messe. Fin de citation de Mgr Perrier. Ainsi, quand nous entrons dans une église, nous pouvons repérer rapidement les 12 croix peintes sur les murs qui nous indiquent que cette église a bien été consacrée et que ce n'est pas un édifice comme un autre. Et si un dimanche à la cathédrale vous arrivez en avance, vous pourrez savoir si c'est l'évêque qui présidera la cérémonie. Je lis dans le livre « Ordinairement sur l'autel, la croix est entourée de 6 chandeliers, 3 de chaque côté. Quand l'évêque préside, un 7e chandelier signale sa présence. » Et voici maintenant un autre passage où il est question de pauvreté et richesse des églises. Mgr Perrier commence le chapitre ainsi. Cette querelle a 2 aspects. Dans le culte de celui qui a dit « heureux les pauvres », des œuvres d'art, admirables et coûteuses, ont-elles leur place? Les églises doivent-elles être les plus belles possibles pour conduire à la beauté de Dieu, ou doivent-elles s'inspirer de la pauvreté évangélique? Cela vaut pour la construction, mais aussi pour la décoration. Avant de poursuivre le texte de Mgr Perrier, je vous rappelle ce qui s'est passé à Ars. On ne peut reprocher aux saints curés d'avoir vécu dans la richesse. Et pourtant, pour tout ce qui concernait le culte, rien n'était trop beau. Quand l'abbé Vianney entreprend l'embellissement de sa petite église, par quoi commencer? Par le maître-autel, puisque évidemment c'est là que se célèbre la messe, centre de la religion. L'ancien maître-autel en bois est remplacé par un neuf, que le curé paye lui-même et qu'il veut le plus beau possible. Le cœur rempli de joie, il aide les ouvriers à le dresser et fait un voyage à Lyon à pied pour acheter 2 têtes d'ange qu'il fait placer de chaque côté du tabernacle. Après l'autel, le ménage du bon Dieu, comme il aime à le dire avec son bon sourire, lui prend tous ses soins. Il se rend un jour à Lyon avec Mademoiselle d'Ars et visite les magasins pour acheter un ornement de messe. Mais devant tous ceux qu'on lui présente, il s'écrie « Ce n'est pas assez beau. Rien n'est trop beau pour le bon Dieu. » Je reprends le texte de Mgr Perrier. Dans le camp de la pauvreté, nous trouvons 2 auteurs de poids, Saint Jean Chrysostome au IVe siècle et Saint Bernard au Xe siècle. Saint Jean Chrysostome écrit « Quel avantage y a-t-il à ce que la table du Christ soit chargée de vases d'or, tandis que lui-même meurt de faim? À quoi bon revêtir la table du Christ de voiles d'or si tu ne donnes pas la couverture qui lui est nécessaire? Toi qui as omis d'accueillir le Christ, tu embellis le pavé, les murs et les chapiteaux de colonnes, tu attaches les lampes par des chaînes d'or. Mais lui, tu ne veux même pas voir qu'il est enchaîné dans une prison. Lorsque tu ornes l'église, n'oublie pas ton frère en détresse, car ce temple-là a plus de valeur que l'autre. » Saint Bernard reprend les mêmes arguments, mais il met en cause le processus qui mène à l'accumulation de richesses, l'argent appelant l'argent. Saint Bernard écrit « L'église est étincelante sur ses murs, mais elle est nécessiteuse dans ses pauvres. Il y a un art de dépenser l'argent qui le multiplie. On le répand pour le grossir. Le jeter à profusion l'engendre à profusion. À la vue de ces vanités somptueuses et admirables, les hommes sont stimulés plus à offrir qu'à prier. On expose une très belle statue d'un saint ou d'une sainte que l'on croit d'autant plus sacrée qu'elle est plus colorée. La foule se presse pour la baiser, mais elle est sollicitée pour donner. » Et Mgr Perrier poursuit ainsi. Le parti inverse est illustré par un personnage qui a eu une influence considérable au XIIe siècle, l'abbé Sugère. C'est lui qui a fait reconstruire la basilique Saint-Denis. Le siècle qui suivit vit sortir de France des cathédrales qui rivalisèrent d'audace dans leur architecture et de prodigalité dans les sculptures et leurs vitraux. C'est Sugère qui a lancé le mouvement. Sugère écrit « Par la beauté sensible, l'âme s'élève à la beauté véritable et de la terre où elle gisait, submergée, elle ressuscite au ciel par la lumière de ses splendeurs. Que cette œuvre qui brille dans sa noblesse illumine les esprits afin qu'ils aillent, à travers de vraies lumières, vers la vraie lumière où le Christ est la vraie porte. » En ce qui concerne les objets du culte, Sugère donne un point de vue opposé à celui de saint Jean Chrysostome et saint Bernard. Il dit « Une chose me tient particulièrement à cœur, que les objets de grande valeur, les plus précieux, doivent avant tout servir à l'administration de la très sainte Eucharistie. Combien plus les vases d'or, les pierres précieuses et tout ce qu'il y a de plus cher parmi les choses sacrées doivent-ils servir à recueillir le sang de Jésus-Christ ? » Et je terminerai cette émission avec la conclusion du livre de Mgr Perrier « Comment visiter une église ?» À tous et à chaque moment, l'Église souhaite que les fidèles se chantent chez eux, dans les églises. Des recteurs de sanctuaires ont écrit une invitation qui commence ainsi « Frère pèlerin, viens au sanctuaire, marche vers la splendeur. Ton Dieu lui-même marche avec toi. Prépare ton cœur et pars dans la confiance et dans la joie, seul ou avec tes frères, mais viens. Mets tes pas dans les pas de tes aînés, qui que tu sois, tu as ta place dans la maison de Dieu. » Au revoir, chers auditeurs, et à demain.